Laudetur Jesus Christus.
Alexandre Loukachenko a prêté serment pour un sixième mandat à la tête du Bélarus, une investiture surprise qui a suscité la colère de ses opposants. L'Union européenne refuse aujourd'hui de le reconnaître comme chef d'État et juge sa réélection frauduleuse. Nous ferons un point sur la pandémie de coronavirus en recrudescence dans plusieurs pays européens, appelés par Bruxelles à durcir leurs mesures anti-Covid. Nous irons dans quelques minutes en Israël, totalement reconfiné depuis une semaine. Une mesure que les autorités jugent indispensable pour sauver des vies, mais pointée comme une preuve de l'incompétence du gouvernement par une partie de la population. Et puis, autre conséquence de cette crise sanitaire, l'augmentation des mariages précoces en Asie du Sud-Est. Notre correspondante en Malaisie nous en dira plus. Et puis, nous parlerons du Yémen. Faute de financement, les organisations humanitaires ont réduit leurs aides aux populations. Pourtant, sur place, la situation de ce pays, ravagé par la guerre, les épidémies et la famine, se dégrade.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigé.
Bonjour à tous. L'Union européenne refuse donc de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président du Bélarus. Le chef de la diplomatie de l'Union, Josep Borrell, pointe un manque de légitimité démocratique, fruit d'une réélection jugée frauduleuse. Des déclarations aussitôt balayées d'un revers de main par l'intéressé et qui interviennent au lendemain de son investiture surprise. La cérémonie organisée discrètement a provoqué la colère de nombreux Bélarusses qui sont descendus manifester. À Moscou, Jean Casset.
Des manifestations tournant à l'émeute et se prolongeant pendant la nuit, des arrestations massives et des rapports de brutalité policière. La nuit dernière au Bélarus a rappelé les tout premiers jours du mouvement de protestation en août dernier. Plusieurs nuits d'affrontements parfois très violents, des dizaines de cas de torture en prison, deux morts, avant que la tension ne retombe alors peu à peu. À l'époque, c'était l'annonce des résultats à l'élection présidentielle, des résultats manifestement truqués qui donnaient Loukachenko vainqueur au premier tour avec 80% des voix qui avaient déclenché la colère des Bélarusses. Même cause, mêmes effets. Hier, c'est sa cérémonie d'investiture organisée en catimini qui a été ressentie par la population comme un insupportable crachat au visage. Aussitôt la nouvelle connue, les manifestants sont sortis dans les rues de Minsk, accueillis par un important dispositif policier. Charges de police, canons à eau, gaz lacrymogène, plusieurs centaines d'arrestations, le bilan est très lourd. Surtout, il est possible que le scénario se répète dans les prochains jours. Les chefs de l'opposition ont appelé à la désobéissance civile. Alors que le mouvement de protestation semblait s'enliser, le mépris affiché de Loukachenko pour son propre peuple a remis le feu aux poudres. Jean Casset, Moscou, pour Radio Vatican.
La pandémie de Covid-19 reste centrale dans l'actualité. L'Union européenne appelle les États membres à durcir immédiatement leurs mesures de contrôle pour endiguer l'augmentation du nombre de cas, 5 millions enregistrés en Europe à ce jour. Plusieurs gouvernements s'y sont déjà résolus, celui de Londres et de Madrid. Paris leur a emboîté le pas hier. Le ministre français de la Santé a dévoilé une nouvelle classification des zones à risque. La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe se retrouvent ainsi en état d'alerte maximale. Des mesures draconiennes doivent s'y appliquer à partir de samedi, comme la fermeture totale des bars et restaurants. Levée de bouclier de la part des autorités marseillaises qui affirment ne pas avoir été consultées, elle propose au gouvernement un délai de 10 jours avant l'application de ces mesures jugées punitives et inadaptées. Bien plus qu'un durcissement des mesures anti-Covid, Israël a fait le choix d'un reconfinement total en plein mois de Tichri, celui d'importantes fêtes juives comme Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Une décision difficile mais motivée par la croissance, là aussi, du nombre de cas de Covid. Ce reconfinement est bien mal reçu par une partie de la population et de la classe politique qui alerte sur une économie en déshérence et critique durement le gouvernement Netanyahou. À Tel Aviv, Bastien Bory.
C'est maintenant à distance que les pros et les anti-confinements se livrent bataille en Israël. Sauver des vies ou bien relancer un PIB en chute de 6% dans les rares commerces encore ouverts, impossible d'esquiver ce débat. D'un côté, les pro-confinements seraient des démagogues. De l'autre, les anti des inconscients. Mais ce sont ces derniers qui crient le plus fort. Des opposants à Benjamin Netanyahou surtout, qui réclament la création d'une commission d'enquête. Objectif, prouver que le Premier ministre veut affaiblir les manifestations devant sa résidence de Jérusalem. En attendant, une personne sur 8 était testée positive ces derniers jours, alors Israël se barricade. Retour au confinement général depuis une semaine, les synagogues ne font pas exception, lieux de culte fermés jusqu'à nouvel ordre, sauf pour Yom Kippour, le jour du grand pardon, lundi prochain. Les prières en extérieur restent autorisées, mais limitées à 20 personnes. Les commerces jugés essentiels demeurent ouverts, mais une question inquiète, quid du ciel ? La fermeture de l'aéroport de Tel Aviv, seule porte d'entrée et de sortie aérienne en Israël, pourrait être décidée à la fin de la semaine. Bastien Bory est Tel Aviv pour Radio Vatican.
Et c'est une des nombreuses conséquences alarmantes de la pandémie de coronavirus. En Asie du Sud-Est, le nombre de mariages précoces semble augmenter de manière inquiétante. C'est ce que relèvent les travailleurs sociaux et les ONG qui se consacrent à ce fléau. Les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles, mais une nette tendance est déjà perceptible. Les explications de Gabriel Maréchaux.
Voilà plus d'une décennie que Saïd Jotirmaï combat les mariages précoces en Asie du Sud-Est. Mais depuis que le coronavirus est arrivé, les lentes améliorations qu'elle pouvait constater se sont figées.
Il y a eu des progrès ces dernières années, mais le coronavirus a généré un rétropédalage et dans ce scénario de nouvelles normes qui se dessinent, j'ai vraiment le sentiment que l'on va devoir retourner plusieurs étapes en arrière et recommencer à partir de là.
Ce constat, le Centre de ressources et de recherche pour les femmes en Asie-Pacifique qu'elle dirige l'explique de deux manières.
Le coronavirus a bouleversé les priorités de santé publique et les services et les informations liées à la sexualité, la contraception ont été laissées pour compte et n'étaient plus considérées comme urgent. En plus de cela, à l'échelle de la famille et du foyer, on a pu constater que des parents avec de grandes difficultés pour nourrir leurs enfants ont pu perdre leur salaire, mais veulent malgré tout protéger leurs enfants, parfois aussi les protéger de dangers à l'intérieur même du foyer, où les enfants sont très vulnérables face à la violence, aux agressions sexuelles. Et pour résoudre tous ces problèmes, le mariage précoce peut alors être considéré comme une solution.
Et en plus de mariage précoce, le réseau d'ONG impliqués dans les droits des femmes ont également fait remonter une augmentation des grossesses adolescentes. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
Bonne nouvelle toutefois, on apprend que le cardinal Taglé a été testé négatif au Covid. Le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples avait été contrôlé positif en septembre, mi-septembre, et se trouvait depuis lors en quarantaine à Manille sans présenter de symptômes. Adresse à la nation canadienne hier de Justin Trudeau après le discours du trône devant le Parlement. Le Premier ministre a appelé ses concitoyens à redoubler d'efforts et de vigilance dans la lutte contre le coronavirus. Il a également présenté les grandes lignes de son plan de relance économique en promettant des investissements publics et la création d'un million d'emplois. Ce jeudi à Washington, le président Trump se recueillera devant la dépouille de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décédée à 87 ans la semaine dernière. Au grand dam des démocrates qui aimeraient que son remplaçant soit nommé après la présidentielle du 3 novembre, Donald Trump promet une désignation ce samedi. Il aurait alors nommé 3 des 9 juges à vie et ancré la plus haute instance de justice dans le camp républicain. C'est elle qui statue sur les questions sociétales. Les agences des Nations Unies dans l'incapacité de secourir comme elles le souhaiteraient la population du Yémen. Ces derniers mois, elles ont été contraintes de supprimer les services de santé dans plus de 300 établissements et de réduire les distributions de nourriture en l'absence de financement de la part de la communauté internationale. Or, sur place, la situation se dégrade et il devient de plus en plus difficile d'acheminer de l'aide. C'est ce que nous explique Tiffaine Walton, porte-parole du PAM à Paris.
Pour nous, ça devient de plus en plus difficile d'acheminer l'aide aux gens qui en ont le plus besoin. Ce qui nous pose problème, c'est d'abord l'accès humanitaire dans les zones les plus secouées par les conflits, les zones qui sont contrôlées par les autorités de Sanaa. Certaines zones où les familles n'ont pu recevoir qu'un mois sur deux de rations alimentaires, et ça, c'est extrêmement embêtant. Il faut voir qu'aussi, au Yémen, on a des taux de malnutrition infantile qui sont parmi les plus hauts du monde, donc c'est extrêmement inquiétant. En raison d'un différent politique sur les importations de carburant par le port d'Hodeïda, les autorités de Sanaa ont décidé de fermer l'aéroport de Sanaa, qui était un des principaux points d'entrée pour la communauté humanitaire et pour les travailleurs du PAM qui viennent en aide tous les jours aux familles. Malheureusement, depuis que cet aéroport est fermé, désormais les travailleurs humanitaires sont soit bloqués à l'intérieur du pays, soit bloqués à l'extérieur du pays et ne peuvent plus y avoir accès.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Actuellement, plus de 20 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Yémen. Parmi elles, 13 millions dépendent de l'aide alimentaire du PAM. Pour continuer à les nourrir ces 6 prochains mois, plus de 500 millions de dollars sont nécessaires. Et enfin, une bonne nouvelle pour les catholiques du Kazakhstan qui disposent aujourd'hui de leur première basilique mineure. Ce titre a été conféré à l'église Saint-Joseph de Karaganda. C'est ce que rapporte l'agence Fides, une église très importante pour les fidèles de ce pays, puisque c'est l'une des toutes premières enregistrées officiellement en 1977 en pleine administration soviétique. Elle contient aussi les reliques d'un prêtre martyr du communisme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Rendez-vous est pris ce soir à 18h avec Marie Duhamel pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité vaticane et internationale. Excellente journée à toutes et à tous.